Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio. Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les rodins de la critique. J'ai nommé Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Alain Rioux de l'Observateur et du Vélo Cycloclub de Saint-Mandé avec Eric Nohoff du Figaro et avec Pierre Murat Pierrot de Télérama. Pour parler ce soir de quatre films qui étaient au Festival de Cannes et qui sont d'ailleurs repartis bredouille, ceux de François Ozon, d'Arnaud Desplechin, qui n'était pas en compétition, il faut dire, de Jacques Doyon et de Philippe Garrel, qui était dans une section parallèle, et de trois films qui avaient peu de raisons, me semble-t-il, d'être à Cannes. C'est Churchill, Lou Andreas Salomé et Marie-Francine de Valérie Lemercier. Dans le courrier de la semaine, un petit retour en arrière avec le film Aurore de Blandine Lenoir, sorti fin avril, et très étrillé au masque, ce qui a provoqué la colère, et le mot est faible, des auditeurs. Vanina, je me suis senti trahi en tant que fidèle auditrice du Masque et la Plume lorsque les critiques ont émis des avis méprisants sur Aurore, dont j'ai apprécié le jeu des acteurs, la qualité de la photo et la cohérence du scénario, un peu de tolérance SVP. Clara Victor, cher Masque, Aurore n'est pas un bon film, mais il nous fait du bien. Un bien qui visiblement échappe à ton cercle de mâles blancs occidentaux dominants. Colette Coffin, j'ai trouvé ce film amusant, sensible et féministe. Blandine Lenoir aborde dans son film le sujet de la ménopause et n'en déplaise au grand mâle blanc ricaneur, c'est très bien vu.
Si je peux me permettre, c'est quand même Sophie qui a été la personne la plus cruelle avec le film.
Je sais bien. Je dirais mauvaise pioche parce que Pierrot et Jean-Marc étaient plutôt un peu plus indulgents. Agnès Jaoui joue vraiment très bien. Vous pouvez encore progresser sur le féminisme et la compréhension de la place des femmes dans la société. Catherine et Daniel Constantini de Carcassonne, eh bien nous avons aimé ce film dans lequel Agnès Jaoui joue avec beaucoup de sensibilité et de justesse une femme à cette période particulière de la vie dans laquelle, ne vous en déplaise, beaucoup de femmes se reconnaîtront. Nous espérons que l'andropause et la ménopause, inéluctables même chez les chroniqueurs de la capitale, adouciront leur jugement péremptoire et signe bien hormonalement vôtre.
Je voudrais dire une chose à propos de ce film,
oui,
Jérôme, pardon.
Oui, Jérôme, peut-être terminer le courrier quand même, non?
Moi, j'aime le film. Et Blandine Lenoir est une spécialiste de ces questions. Elle a fait un court-métrage magnifique sur l'abbé Violet. C'est une chose que je vous recommande.
C'est pour ça que tu m'as coupé.
Non, mais si tu voyais le film, tu comprendrais.
Quel mâle blanc dominant.
Pour Edwige Lourmière, ce sujet est peu, voire pas traité. En plus, il y a beaucoup d'humour, de la légèreté, de la gaieté, de l'énergie. Ça fait du bien. Jean-Louis Lejon de Saint-Maur-les-Fossés est d'accord avec Pierre Murat. C'est un film agréable, drôle et émouvant. La scène dans la maison de retraite, quand les dames regardent une conférence de Françoise Héritier sur YouTube, est une excellente thérapie contre la misogynie rampante et le racisme anti-vieux. En revanche, Bernard Magnon de Lyon regrette que Pierre Murat ait fait la fine bouche devant un autre film, que moi j'avais beaucoup aimé, qui est « À mon âge, je me cache encore pour fumer » de Rayana. Il faut encourager, nous dit Bernard Magnon, les spectateurs à aller voir ce film qui dénonce sans pathos la réalité de la vie des femmes algériennes victimes du poids de la religion. Et pour finir, Sylvain Chérier de Sancerre s'inquiète, et je le comprends, cher Masque, ma fille de 8 ans ne peut s'empêcher de révéler la fin des films à ses amis qui ne les ont pas vus. Pouvez-vous m'aider à lui faire passer cette désagréable manie? Non, ça je peux pas.
C'est sa filleule.
Pourra-t-elle tout de même prétendre un jour être critique au Masque et la Plume ou ailleurs? Là, j'en doute. Et d'ailleurs, je garde pour plus tard le courrier mais colérique que j'ai reçu cette semaine après que Michel Simon a révélé, c'était au Masque en direct du Festival de Cannes dimanche dernier, a révélé la fin du film de Fatih Akin, In the Fade, Et c'est vrai que là, depuis ce dimanche dernier, je n'arrête pas d'en recevoir des reproches.
C'est plus moi qui fais ça.
Et pourtant, le film n'est même pas sorti. Hein. Donc, je le disais, en compétition à Cannes, sorti la semaine dernière, il y avait Rodin, de Jacques Doyon. Un film de 2 heures avec un Vincent Lindon dans le rôle-titre, Isia Higelin en Camille Claudel, très différente d'Adjani dans le film de Nuitaine. Mais aussi, pour des petits rôles, Pascal Casanova en Ambroise Vollard, ou encore Arthur Nosiciel en Cézanne. Doyon joue la carte du biopic, enfin un biopic impressionniste, en cette année où on célèbre, je le rappelle, le centenaire de la mort de Rodin. Là, on est en 1881, le sculpteur a 40 ans, il reçoit sa première commande de l'État, ça donnera le baiser et le penseur. Et il vit avec Rose et Séverine Canel, mais rencontre Camille Claudel pour 10 ans de passion, tout le monde le sait, folle, et aussi de complicité artistique. Lindon a une grande barbe. On voit qu'il a vraiment appris à tenir un burin. Ça, c'est vrai, hein. Il a travaillé son geste. Il égrène des phrases définitives qui ressemblent à des aphorismes. Ou des, parfois, il y a bonjour, mon vieux Monet, mon cher. De temps en temps, on est un peu dans l'entre-soi, comme dirait Macron. Et évidemment, il n'est jamais meilleur qu'au moment, là, en l'occurrence, de réaliser son Balzac. Je me dois de vous dire que le courrier que j'ai déjà reçu sur ce film n'est pas très tendre, mais je le garde, ce courrier, pour un prochain masque. Éric,
c'est vraiment Camille Claudel redouble, ce film. Elle n'a pas de chance. Hein. Déjà, le Nuitaine n'était pas un chef-d'œuvre, mais alors celui-là... Bon, ce qui relativise la performance, c'est que c'est un film de Doyon. Alors, pour du Doyon, c'est regardable, parce que d'habitude... Oh. Ah non, mais c'est un cinéaste, on peut pas rester jusqu'au bout. Mais là, il lui arrive un peu ce qui était arrivé à Luc Besson avec Jeanne d'Arc. Il y a une histoire, alors il est obligé de la raconter vaguement.
Mais c'était pas mal, Jeanne d'Arc.
Mais pas si mal, oui, surtout pour un film de Luc Besson. Et là, c'est peut-être, depuis Les Doigts dans la Tête, le meilleur film de Jacques Doyon. Mais il faut s'intéresser à Rodin, beaucoup. Surtout, c'est un film qui est censé se passer sur 10 ans. Et on sent pas du tout cette durée. On voit qu'il y a des petits poils blancs de temps en temps qui apparaissent dans la barbe de Lindon. Et il y a un énorme problème dans le film, c'est que, je sais pas si c'est le son ou la diction des acteurs, mais on ne comprend rien de ce qu'ils disent. On a l'impression que c'est Lassalle, le député, qui est en train de sculpter la statue de Balzac. Et ce qui est embêtant, c'est que...
Non, parce qu'il n'y a pas l'accent.
On comprend ce qu'ils disent, c'est presque pire. Alors, c'est un film très, très éteint, très plat, qui se passe pratiquement complètement dans l'atelier. Et c'est pas désagréable, c'est pas agréable non plus. Et il y a un final au Japon qui est quand même assez gratiné aussi.
Pierrot.
C'est un film magnifique. Mais de toute façon, moi, je suis un fan de Jacques Doyon. Pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs. Et le film, celui-là, s'ouvre sur un plan séquence de 5-6 minutes qui est absolument à tomber. C'est ce qu'on a vu à Cannes et même cette année de plus beau, avec la caméra qui passe à travers tout l'atelier, qui se glisse à travers. C'est un plan séquence absolument admirable. Maintenant, Doyon, il changera pas. Il fait toujours du Doyon. Donc, tu n'aimes pas Jacques Doyon puisque tu dis que le seul film valable, c'était Les Doigts dans la Tête.
C'était de lui.
Il a toujours fait ça, et il a filmé les gens au travail. Et là, il est à son aise, puisque la grande scène, c'est en effet lorsque Balzac, il prend une robe de chambre, il la fout dans le plâtre, il la malaxe, et on sent absolument le travail. Et cette scène-là est absolument splendide. Donc, moi, je suis tout à fait sensible à ça, et je trouve qu'il n'a fait que filmer au fur et à mesure des années des gens au travail. Par exemple, la petite Ponette, qui cherchait absolument à faire revenir sa mère qui était morte, elle accomplissait une vraie tâche, un vrai labeur, et à la fin, elle y arrivait. Et tout le film, pour moi, est fait sur cette notion de travail. On va montrer ce que c'est que sculpter, comme on va montrer ce que c'est que filmer. Et ben, c'est un film aussi sur Jacques Doyon au travail. Je trouve ça absolument formidable.
Moi, je trouve ça absolument épouvantable. Mais c'est vraiment un film. Je l'ai pas assez compris pour pouvoir le détester. Je n'ai absolument rien appris. C'est-à-dire, il nous apprend rien sur quoi que ce soit. On ne voit pas les œuvres. On ne les voit qu'à la fin. On aperçoit le Balzac. Là, on le voit enfin à la fin. Mais sinon, on le voit tripoter des petits bras, des trucs. Et surtout,
on n'entend rien.
C'est-à-dire, on dit, il parle tellement dans sa barbe, mais c'est épouvantable. Vous savez, il y a un musée, le grand musée Marmottan. Là, c'est le musée Marmotteur. c'est épouvantable.
Oh, c'est...
Et
sur le Jacques Doyon comme ça,
vraiment,
c'est
on arrive dans celui-là, on se dit, mais où est là? Qu'est-ce qu'on va nous apprendre sur... Vous savez, il est question de Félix Faure à un moment dans ce film, et on se dit, mon Dieu, les là aussi, les connaissances sont parties par l'escalier de service.
Jean-Marc.
Moi, je trouve que c'est un film un peu inabouti d'un très grand cinéaste. Contrairement à Eric, moi, je pense que Doyon est vraiment un des plus grands cinéastes français de ces 50 dernières années. Et contrairement à Pierre, je pense que ce film-là n'est pas complètement senti. Et s'il n'y avait eu que ce que décrivait Pierre, à savoir la relation d'un très grand artiste avec le travail, le film serait vraiment très beau. Mais étrangement, alors que Doyon, c'est quand même un grand cinéaste du triangle amoureux, qu'il a fait vraiment des films magnifiques là-dessus, je trouve qu'il loupe en partie l'histoire passionnelle. Je trouve l'histoire d'amour entre Camille Claudel et Rodin assez désincarnée, qui ne réussit pas totalement à faire un film qui serait la symétrique inversée d'une Nuitane, où ça serait entièrement le point de vue de Rodin. Du coup, il ne sacrifie pas assez Camille Claudel, mais il ne l'inclut pas totalement. Je pense que s'il avait fait un vrai film d'atelier en se recentrant sur les scènes où il filme Lindon en train de malaxer sa matière première, ça aurait été très fort, parce que là, tout à coup, il y a une vraie respiration de cinéma. La manière dont il crée un hors-champ par la bande-son. Lindon, je trouve que dans toutes les scènes dialoguées, il n'est pas très bon, parce qu'il essaie d'en faire très peu, et que quand il en fait très peu, il manque d'intensité. Alors que sur la présence physique, dans les scènes, ou sur ses épaules, sur son cou, il est dans un corps à corps avec ses statues, je trouve ça très très beau. Donc il y a quand même de très beaux moments de cinéma, mais presque arrachés à un film qui, par ailleurs, dans son scénario, est un peu plan-plan et presque académique par moments.
Mais toutes les scènes avec Séverine Canel, qui joue la compagne de Rodin, elles sont très Doyon et elles sont très très belles.
Elles sont mieux que les scènes avec Isaïe Jelin en Camille Claudel, je suis d'accord.
Bah oui, mais quand même, ça fait beaucoup.
Enfin. Non, mais le film est intéressant.
Rodin de Jacques Doyon, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui, dans le studio.
Moi, je partage tout, j'avais l'avis d'Alain et de Eric, parce que on ne comprend absolument rien. Alors, on se régale quand il fait ses sculptures, c'est très bien. Mais je vais signaler que dans certaines salles, ne serait-ce à Marly, parce que j'ai une amie qui l'a vu à Marly, ils ont mis des sous-titres. Oui. Alors, ils avaient fait pour les sourds et malentendants. Oui. Pour les sourds et malentendants. Et ils ont fait toutes les. Après, ils se sont rendus compte qu'ils ont mis les sous-titres en permanence.
Oui, bah, nous, on l'a vu sans sous-titres. Mais...
Oui, j'ai compris quand même. Enfin, moi.
Il y en avait à Cannes, mais en anglais. Enfin, les sous-titres étaient en anglais.
En anglais. Mais
c'était pas. D'autres réactions sur ce film, non. Également en compétition à Cannes, également reparti bredouille, et sorti en France le 26 mai, il y avait L'Amant Double, qui est le 17e film de François Ozon. Prix des auditeurs du Masque et la Plume, je vous le rappelle, pour France, c'était l'automne dernier, avec Marine Wacht, qu'il avait fait jouer dans Jeune et Jolie, et puis Jérémy Régnier, qu'il avait fait jouer dans Les Amants Criminels. Et dans ce thriller érotique et mental, découpé vraiment comme un plan d'architecte, chaque plan, on a l'impression que ça vient d'un travail d'architecte, et c'est tiré d'un polar de Joyce Carol Oates, et c'est l'histoire d'une jeune femme en souffrance, Chloé, qui est jouée par Marine Wacht et qui s'éprend de son psy, c'est Paul, Jérémy Régnier, dont elle va partager la vie, d'ailleurs très vite, dès le début, et lui découvrir, du moins le croit-elle, un frère jumeau avec lequel elle le trompe sauvagement, pour ne pas dire bestialement, une histoire qui est racontée du point de vue fantasmatique, horrifique, orgasmique de Chloé, dont le ventre va se convulser une grande partie du film. En plus, elle garde dans un musée, ce qui n'arrange pas les choses, des œuvres d'art tout à fait sanglantes. L'épilogue, on va pas le raconter, ni Pierre, ni moi. Or, c'est très important parce qu'évidemment, moi je l'ai vu deux fois, et je l'ai vu la deuxième fois en ayant compris grâce à l'épilogue ce que c'était, et ça change totalement la vision qu'on a du film. Film très freudien, vous l'avez compris, dont le sujet est moins, me semble-t-il, l'érotomanie que la gémellité, et même la gémellité cannibale ou parasite, qu'Ozon traite en maître de l'épouvante. Alors, les avis sont très partagés sur ce film, n'est-ce pas, Eric? On va commencer avec Jean-Marc.
Oui, alors moi-même, je suis partagé. Je trouve que le film...
Ce qui est pour un film sur la gémellité.
Exactement, voilà.
Tombe bien.
Il y a deux Jean-Marc qui vont s'exprimer ce soir. Alors, il y en a un qui trouve que c'est une très belle carrosserie et l'autre qui trouve que le moteur est un peu en sous-régime et pas en rapport avec l'opulence de la carrosserie. Je trouve le film très beau visuellement. Il y a ce côté architecte dont tu parlais, extrêmement précis. Mais, à mon avis, la limite du film, c'est que pour atteindre ce niveau-là de cinéma, ce cinéma mental qui serait quelque part entre Cronenberg et Lynch, il faut avoir un accès très très fort à son inconscient. Et À ce jour, je trouve que François Ozon est un cinéaste de l'intention, de la maîtrise, de la consommation d'effets de cinéma, mais que pour l'instant, il n'a pas accès à des choses très violentes, aussi violentes que celles de Lynch, qui lui permettent à Mulholland Drive d'embraser totalement l'univers chimérique, fantasmatique qui est mis en œuvre. Là, j'ai le sentiment qu'il n'y a que les indices de l'inconscient, de la pulsion, mais jamais leur matière organique. Cette espèce de froideur designée assez belle et séduisante visuellement, je trouve que on n'a pas accès aux troubles, en fait. Malgré tout, je suis quand même très impressionné par Marine Wacht dans le film. Je trouve qu'elle a une cinégénie qui est passionnante. Je sais pas si c'est une grande actrice, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est passionnant à regarder. Il se passe toujours un accident lumineux, quelque chose sur son visage, qui fait qu'elle a une aura de star. Que ne serait-ce que pour ça, le film est quand même assez excitant à regarder.
Je vous rappelle que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Léon Morin-Prêtre, enfin, plutôt La Confession de Boukrieff, et que le passage de ce film-là au film de Ozon est assez stupéfiant. Alain ?
Bien, justement, je trouve que le passage de ce film, ça démontre une chose que j'avais éprouvée en voyant Léon Morin, c'est-à-dire que cette femme me fait douter de l'inexistence de Dieu. Tellement elle est belle, tellement elle est gracieuse, tellement elle est photogénique. Enfin, Jean-Marc en a parlé magnifiquement.
Là, elle est très inquiétante aussi.
Hein. Elle est très inquiétante, mais elle a tout ce que j'attends d'une femme, y compris. Mais je vous jure que c'est vrai.
C'est un appel ou c'est
la raison pour laquelle ce film-là, c'est exactement le genre de film pour lesquels j'aime aller au cinéma. J'ai même l'impression que c'est ce que je vais toujours chercher au cinéma, c'est-à-dire les mensonges, les interdits, quelque chose qui dépasse la vie quotidienne, quelque chose qu'on a... Et c'est le film le plus hitchcockien que j'ai vu de ma vie, vraiment en dehors des Hitchcock. Et c'est absolument fascinant, et cette beauté glacée, justement, tout ce que tu reproches. Et puis, d'ailleurs, il me semble qu'Ozon, moi je m'intéresse beaucoup à Ozon, et ce qui est très curieux, c'est que ce qui se passe avec le ventre de la belle dont j'ai parlé, se passerait il y a quelques années avec un film extrêmement étrange dans le dos d'un enfant. Vous vous souvenez ?
C'était Rocky. C'était Ricky qui était un film, le seul film vraiment fantastique.
Poussait des ailes.
De Ozon.
Et c'est un petit peu pareil. C'était extrêmement étrange,
Ricky
extrêmement étonnant.
Plus réellement bizarre.
Et on perd. On a l'impression de plus toucher au sol. Enfin, on perd le sens. On est dans le vertige. J'adore ça.
Et avant de laisser Eric dire des horreurs, je trouve que vous parlez très bien de Marine Wacht, mais je trouve que la faculté qu'a Jérémy Régnier de se dédoubler avec juste un changement imperceptible de coiffure, mais d'être vraiment deux en un, est assez bluffant aussi. Eric.
Je suis obligé d'en parler, alors. Non, mais dès les premières images, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, c'est une façon de parler, parce que c'est un gros plan sur l'intérieur d'un vagin. Alors, on se dit, Ozon, on va encore épater le bourgeois. Et le plan suivant...
Ozon, c'est l'impératif du verbe oser.
Si tu veux. Et ensuite, c'est... le gros plan d'un œil, et on sait que c'est un malin, c'est donc une femme qui va être hystérique, à mon avis, et c'est l'histoire de l'œil de Georges Bataille. Et le film est comme ça, bourré de références psychanalytiques, cinéphiliques. C'est un peu comme si quelqu'un avait offert les œuvres complètes de Sigmund Freud à Joss Jekin. Alors, ça fait des dégâts. Le film, l'image est très léchée.
Ça fait des dégâts de lire Bataille. S'il n'avait pas lu Bataille, il n'aurait pas vu ces références.
Non, ce côté gynécologue est un petit peu embarrassant. Il a aussi un côté garçon coiffeur parce que dès le début, il coupe les cheveux de Marine Wacht, ce qui est un péché et un crime. Et évidemment, c'est une référence à Rita Hayworth et Orson Welles, puisqu'il y a aussi les miroirs dans l'appartement qui sont brisés. Et le film est comme ça, comme un numéro de Monsieur Cinéma. Il y a une voisine envahissante qui offre des gâteaux qu'elle n'a pas envie de manger.
Qui est Myriam Boyer.
Oui, qui est très bonne d'ailleurs. C'est Rosemary's Baby. Elle collectionne les animaux empaillés, c'est Psychose, et tout est comme ça, et on a l'impression d'être un peu dans le pire Brian De Palma référentiel, et moi j'en ai un peu marre de ces films où tout ce que vous avez vu, on vous dit à la fin, mais ça n'a pas compté, c'était n'importe quoi. Ça c'est beaucoup trop facile, et il aurait fallu inventer une histoire un peu plus crédible, moins psychanalytique, et en plus, l'hétéroplouc que je suis aurait mille fois mieux aimé qu'il y ait deux Marine Wacht plutôt que deux Jérémy Régnier. Donc ça n'est pas, pour moi, l'amant double, c'est lamentable.
Oh. Pierre.
Qu'est-ce que je peux dire après ça?
Et la façon dont il filme Bisset est honteuse.
C'est vrai que c'est un film de référence. Oui, bien sûr que c'est un film de référence. Mais elles sont parfaitement assumées. Et Rosemary's Baby et
Obsession.
Mais non, parce qu'au-delà de ça, Il dit lui-même, osons qu'après Franz, où il voulait une mise en scène presque invisible, il a tenu à faire justement pratiquement l'inverse, puisqu'il fait toujours des films à l'encontre du précédent. Et ce qui me frappe, moi, c'est la façon, contrairement à toi, Jean-Marc, je trouve que c'est un film très violent organiquement. C'est que pour la première fois, me semble-t-il, il atteint ça. Il l'avait cherché dans des films comme sitcom, il y a très très longtemps, son premier. Et là, il se coltine avec ça, c'est-à-dire avec l'intérieur féminin, si j'ose dire, le double masculin. Et je suis tout à fait d'accord, Jérôme, le plus important, c'est la gémellité.
Et petite parenthèse, la question de la gémellité parasite ou cannibale n'avait jamais encore été évoquée au cinéma, ni racontée au cinéma. Et ça, là, il n'a pas besoin de référence. Il l'aborde de plein fouet, assez violemment d'ailleurs, mais pour la première fois.
Oui, oui, c'est ça. Mais en plus, le rôle des jumeaux est très important, puisque à un moment donné, il y a une scène de ménage à trois, si vous voulez, où Marine Wacht rêve qu'elle couche avec les deux frères, et on s'aperçoit que les deux frères, semble-t-il, dans ce qu'elle croit, se désirent encore plus qu'ils ne la désirent elle, en quelque sorte. Donc, tout ça est d'une subtilité, mine de rien. Mais si, c'est justement la force d'Ozon. C'est prendre un sujet. Il prend un sujet qui est apparemment, comme ça, bourré de références, et il arrive à impliquer son œuvre, son univers, de façon beaucoup plus subtile. C'est une mise en scène, là, je pense que, quand même, le jury de Cannes aurait pu vaguement envisager.
L'âme en double, François Ozon, des réactions sur ce film, non. Encore un amant, mais là, c'est l'amant d'un jour. Le 26e film, en noir et blanc, bien sûr. Bref, évidemment, 1h15, je crois que c'est le plus film le plus court qu'on ait pu voir à Cannes, du toujours attendu Philippe Garrel avec sa fille Esther Garrel. Éric Caravaca et Louise Chevillot. Jeanne, c'est Esther Garrel qui vient d'être lâchée par son mec et retourne chez papa Caravaca, prof de philo, et dont la nouvelle compagne, Ariane, c'est Louis Chevillot, a exactement le même âge qu'elle, c'est-à-dire 23 ans, et le film va explorer les relations entre ces deux jeunes femmes, la fille plus idéaliste, la compagne plus libérée, réunies autour du même homme. Je sais pas si... moi, j'aime beaucoup le cinéma de Garrel. Est-ce qu'on a le droit de dire que celui-là est un peu mineur par rapport aux autres films de Garrel, sans passer pour être totalement sacrilège? Tiens, Eric.
Bah, c'est très pauvre, on peut le dire, mais pas seulement de ce film-là. Mais c'est un cas, Garrel, parce que c'est un type qui a bientôt 70 ans.
Tu as fait un bon programme,
je te remercie. Non, mais on a l'impression qu'il est resté un éternel étudiant. Je suis sûr que le soir, il va dîner au Resto U. Il a l'imaginaire d'un adolescent qui rencontre des filles, ça marche pas. Alors qu'il aurait dû apprendre un tas de trucs en 50 ans sur les rapports entre les hommes et les femmes, là. Il se rend compte, puis ça va plus, puis la fille s'est fait larguer, elle retourne chez papa, mais le papa est prof de philo, mais à mon avis, il pratique surtout les travaux pratiques parce qu'il se tape son élève dans les toilettes de la faculté, et la fille, pour avoir une bonne note à l'examen, au moment où elle a un orgasme, elle dit mon Dieu, parce que ça doit faire métaphysique, elle le refait à la fin avec quelqu'un d'autre, donc c'est terrible. Et tout ça dans un noir et blanc charbonneux, pas désagréable.
Ah non, ça, c'est un beau noir et blanc.
Oui, c'est beau, mais enfin, c'est la moindre des choses. Non, mais charbonneux, c'est presque un compliment. Mais alors, ça dure 1h15, c'est le gros mérite du film, mais c'est quand même très très curieux de voir ça. Et puis, ce sont des personnages totalement abouliques. Ils ont l'air d'être tout le temps fatigués. Le simple fait de mettre les mains dans leur poche, ça a l'air de les exténuer déjà. Alors, quand ils parlent un petit peu, on a l'impression qu'ils vont s'endormir avant d'avoir terminé leur phrase. Même quand quelqu'un veut se suicider, on a l'impression que c'est l'heure du petit déjeuner et que le bol va refroidir. Et c'est un univers, je sais pas dans quel monde il vit. Il est curieux, ce Garrel, parce que...
Ah oui, ça, oui.
Non, mais là,
ça, c'est la seule chose que je peux reconnaître, il est curieux.
La fiancée étudiante, la fille découvre, qui est un peu jalouse de la maîtresse de son père, découvre sur un kiosque à journaux que la fille est en couverture d'un magazine érotique, comme il n'en existe plus depuis 1963. Et alors qu'aujourd'hui, une fille de 23 ans, elle pose pour des trucs porno sur Internet. Et il vit dans un drôle de monde. Il s'est jamais remis de mai 68. À un moment donné, la fille couche avec un amant d'un jour, de passage donc, qui dort évidemment, parce qu'elle a dû lui parler de Garrel. Et elle se rhabille et elle écrit au rouge à lèvres sur le miroir « Plus jamais ça », ce qui est le slogan antifasciste par excellence. Donc on se demande dans quel monde il vit. Même une scène de danse, il ne sait pas la filmer. C'est Ramolli. Dans le premier film qu'on a vu à Cannes, là, de la jeune fille qui s'appelle Léonore Serrail, je crois, jeune femme.
Qui a été primée, qui a eu la caméra d'or.
Formidable. Et dans ce film-là, on sent l'envie, la nécessité de faire du cinéma. Là, on sent un type au bout du rouleau et qui manque terriblement d'humour, qui aurait dû lire autre chose que ce qu'il a lu. Et on l'appelait le Rimbaud du cinéma à ses débuts, ce qui n'était pas tout à fait faux. Et aujourd'hui, c'est plus le Madeleine Chapsal de la pellicule.
Oh là là, Jean-Marc.
Oui, moi je me demande dans quel monde vit Rignoff, pas le même que moi, en tout cas on voit pas les mêmes films. Évidemment que c'est pas un Garrel majeur, mais ce qui est très beau dans le cinéma de films Garrel, c'est que d'une certaine façon il ne fait que des films mineurs. C'est-à-dire
Non.
Moi je dirais, à part certains, je dirais que ce qui est très beau chez lui, c'est vraiment la petite forme.
C'est un très grand film, par exemple.
Il y a un côté série B d'auteur qui tient à la concision extrême du récit, à l'économie des moyens, qui fait la grandeur du film. C'est-à-dire que la grandeur du film, elle tient à un côté extrêmement ramassé, condensé, un côté vraiment série B, mais série B de film d'arrêt essai. Moi, le film, je le trouve vraiment magnifique. C'est-à-dire que je pense que Garrel est un des plus grands filmeurs qui soit, que chaque cadre, chaque rythmique de plan, là encore, il y a une respiration de cinéma, peut-être encore supérieure à celle de Doyon, qui fait que moi, je sens qu'on est au pays du cinéma tout le temps et que c'est magnifique. Et tu disais que Garrel n'avait rien appris, alors je ne sais pas s'il a appris des choses sur l'amour, moi je pense qu'il les a toujours su. En tout cas, il a appris quelque chose, c'est à raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il est parti d'un cinéma qui était très très peu narratif, qui faisait qu'on disait, comme tu le rappelais, qu'il était le Rimbaud du cinéma. Dans les films de ces 20 dernières années, ce qui frappait surtout, c'était une manière de coexister avec les personnages, un art de la présence, un accès comme ça aux affects purs, sans passer par du récit. Et depuis quelques films, il y a un côté Romain Onxenxo qui se met en place chez lui, un travail sur des très légers déplacements de point de vue, sur des petites machinations, sur des dessins secrets des personnages, qui fait qu'il devient, à 70 ans, comme tu le rappelais, un cinéaste narratif et un cinéaste du récit et d'une très très grande intelligence dans la manière de raconter, là par exemple, le désir inconscient d'une fille à faire capoter l'histoire d'amour de son père. Et ça, on ne le comprend pas tout de suite. Il faut vraiment repenser, ruminer le film pour comprendre où est son vrai sujet. Moi, je trouve que c'est un film admirable.
Mais toutes les belles filles sont comme ça.
C'est vraiment des
toi, tu sais tellement de choses sur les filles et sur l'amour.
Je suis d'accord en partie avec Jean-Marc sur le côté narratif de Garrel depuis quelques films. Là, il me semble un tout petit peu en retrait quand même. Alors c'est très très joli ce que tu viens de dire, le film secret, le film double de cette jeune fille qui veut détruire inconsciemment la relation avec son père. Mais très franchement, on voit pas ça vraiment. Il y a une actrice, il sait très bien révéler les actrices, et c'est Louise Chevillot qui est belle, sensuelle, qui a un personnage très très fort. Je suis un peu sensible à ce que dit quand même Eric. Par exemple, ça c'est un détail, mais ce prof de philo qui couche avec un pyjama pareil, mais j'ai jamais vu un pyjama comme ça depuis 75 ans. Quoi. Plus personne, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, mais alors c'est drôle. Enfin, ça m'a brusquement dit, mais on est en 1960, même pas.
Sartre devait en avoir un comme ça.
Mon grand-père portait des pyjamas comme ça.
Je reconnais
que c'est idiot, c'est un argument idiot. Néanmoins, il me semble qu'il est un tout petit peu moins fort là. Par exemple, la danse, qui est à peu près, mais il avait très bien filmé Monica Bellucci dans un film précédent où il l'observait danser et c'était magnifique. Donc moi,
elle
je pense.
Elle est toujours bien quand elle parle pas. Hein.
Moi, je pense que il est au sommet. Enfin, il est très 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 talentueux dans ce film là. Je le sens un peu à la paresseuse quand même.
Alain.
Là, pour une fois, je penche plutôt du côté de Jean-Marc. C'est drôle parce que pour moi, tout ce qu'a dit Eric sur Garrel...
Je suis sûr que tu as le même pyjama.
Non, c'est pas pour ça. Non, sûr.
Il l'a d'ailleurs ce soir.
Je ne dors. Comment veux-tu qu'après avoir vu un film de Zon, j'ai encore un pyjama? Il y a quand même des choses qui sont... Mais jusqu'ici, tout ce qu'a dit Eric magnifiquement était pour moi exactement les films de Philippe Garrel. Et là, j'ai trouvé qu'on entrait dedans grâce à ce qu'a dit Jean-Marc. Merci, messieurs. Je vous emmènerai toujours au cinéma tous les deux pour me permettre de comprendre les films parce que c'est vrai qu'il a un côté narratif et c'est vrai que ça pourrait être un petit Romère. Et ça m'a fait penser, d'ailleurs, toi aussi, j'en suis sûr, à des petits romers mineurs eux-mêmes dans, par exemple, les Rendez-vous de Paris. Ces petites nouvelles.
Oui, mais du romère,
j'ai trouvé que c'était
hein,
juste. Et ça, je l'imputerais peut-être au fait que, pour une fois, Garrel a un petit peu échappé à sa famille productrice, protectrice, et productrice aussi, d'ailleurs, et a engagé Caravaca, que je trouve très, très bon, même de, dans son pyjama à plat, et la petite...
Esther.
Esther, c'est l'autre.
Oui, Chevillot.
Chevillotte. Et ses taches de rousseur. Chevillot. Et ses taches de rousseur qui sont très, très...
Ah, tu es sensible aux taches de rousseur.
Oui, très, très. Photogélique.
Je crois qu'avant la fin de l'émission, je vais donner le 06
m'a pas du tout
d'Alain Rioux.
Hein. Je l'ai trouvé bon.
Bon, L'amant d'un jour de Philippe Garrel, des réactions sur ce film, non. Et on termine, si j'ose dire, Cannes, avec le film qui a fait l'ouverture du festival, hors compétition. Ce sont Les Fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin, qui lui avait reçu le prix des auditeurs du Masque pour 3 souvenirs de ma jeunesse, un film d'1h50. Alors, il paraît qu'il y en a une autre qui dure 20 minutes de plus, que je n'ai pas vue, c'est ça, hein, c'est 20 minutes de plus ?
20 minutes de plus.
Dans Positif, d'ailleurs, j'en profite pour dire que Philippe Rouillet a fait une comparaison très, très utile entre les deux versions. Dans Positif du mois de juin.
Avec, évidemment, Mathieu Amalric. Je vous conseille, mais ça, on aura le temps en septembre, son Barbara, que j'ai beaucoup aimé. Mais aussi Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, le fils de Philippe et le frère d'Esther, et avec Laszlo Szabo, un film qui résiste tout à fait au résumé, donc je vais aller vite, ce qui d'ailleurs ajoute, selon moi, à son charme. Disons, pour aller vite, que le Ismaël du titre, Ismaël Vuillard Amalric, est un cinéaste qui s'apprête à tourner un thriller sur un agent double, Paul Dédalus, c'est Louis Garrel, réapparaît alors sur une plage de Noirmoutier, Carlotta, c'est Cotillard, un amour de jeunesse, dont 20 ans plus tard, il n'a pas réussi à faire le deuil. Et puis sa nouvelle compagne, Sylvia, s'enfuit. C'est Charlotte Gainsbourg. Et Ismaël va retrouver sa maison familiale de Roubaix. Une maison, évidemment, vous l'avez compris, plein de fantômes. Film, là, pour une fois, j'ai envie de citer Eric dans le texte, à la fois bavard, bancal, littéraire, très généreux. J'ai même envie d'ajouter tchékovien, tellement ça circule entre les personnages, Eric.
Bah oui, le fait est, hein, c'est un... C'est un grand bonhomme, ce Desplechin. C'est notre cinéaste le plus littéraire, et c'est pour ça qu'il filme comme personne, parce que tous ses films, dont celui-ci, c'est à la fois un poème, un journal intime, des mémoires, un roman, et il mêle tout ça en filmant. Et je crois que c'est le type qui tient le mieux une caméra en France. Il y a des scènes vraiment inouïes, là. Le moment où, dans un dîner, Charlotte Gainsbourg tombe amoureuse en direct, en temps réel, devant nos yeux, d'Amalric, qui est là en train de pérorer autour de la table avec cette voix off presque susurrée. C'est magique, c'est presque proustien, là. C'est quelque chose de... Voilà quelqu'un qui sait parler des sentiments, qui sait ce qui se passe entre les gens et qui le montre. Quand Marion Cotillard, qui représente le passé, qui ressurgit, qui est un fantôme, mais alors un fantôme en pleine santé, hein, parce qu'il serait comme ça, les fantômes, on aimerait bien avoir une maison hantée, et elle danse devant sa rivale, et là aussi on voit que c'est une danse qui... Elle est assez maladroite, elle ne sait pas quel regard porter sur la nouvelle compagne de son ex-mari. Et tout est comme ça. Il peut tout se permettre. Le film est bancal parce qu'il y a trop de choses ou
oui,
pas assez.
Oui, c'est pour ça que je disais que c'était irrésumable.
Il se permet de mettre un film dans le film qui n'est peut-être pas indispensable, cette histoire d'espionnage avec Louis Garrel, qui joue son frère, qui s'appelle Dédalus. Et il y a des choses très uniques aussi. C'est qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe parce que, dans le film contemporain, le film de Desplechin, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de choses comme ça. Les gens s'arrêtent au bord des autoroutes pour téléphoner dans des cabines. Et dans le film qu'il tourne, il y a des portables. C'est très mystérieux. C'est un temps à la Desplechin. C'est un film sur le temps qui passe.
Qu'il y avait déjà dans 3 souvenirs de ma jeunesse, qui est très particulier.
Et je ne sais pas ce que donne la version plus longue, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique et qui vous fait croire que le cinéma, quand on veut, peut être un art. Et c'est un rêve éveillé, c'est
enfin
quelque chose de magique.
Enfin, un film qui aime Pierre.
Ben, c'est magnifique, c'est un film en effet tout à fait littéraire au bon sens du terme, parce que rien que les noms, il y a toujours des noms qui reviennent chez lui. Ismaël, c'était déjà Vuillard, c'était le personnage de Roi et Reine, et il parle de Paul Dédalus, qui était le héros de 3 souvenirs de ma jeunesse. Tout ça s'imbrique de façon pas toujours très 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 logique, mais on s'en fout. Et on s'en fout totalement.
C'est volontairement parfois illogique.
Et volontairement illogique. Et ce qui est très beau toujours chez lui, c'est l'apparition des fantômes. Parce que depuis La Sentinelle, enfin depuis, il y a toujours à la fois le mélange du cinéma d'espionnage. La Sentinelle, c'est un cinéma d'espionnage, puisque c'est un type qui enquêtait sur une tête réduite. Et puis en même temps, la présence des morts qui est toujours très importante. Et là, Marion Cotillard, une fois de plus formidable, s'appelle Carlotta, comme l'héroïne, enfin comme le portrait de Surfroid Hitchcock, et elle revient, et c'est ça qui est très beau, elle revient comme un fantôme, mais 20 ans ont passé, elle n'est plus la même, le temps a changé, et elle est même maladroite justement dans sa danse, dans ses sentiments, parce que le passé n'est plus le même, et c'est là où on peut parler en effet de Proust. Enfin, et puis, ce qui va de mieux en mieux chez Arnaud Desplechin, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il arrive, paradoxalement, ça bavarde beaucoup, mais en même temps, le montage, les intrigues, ce télescope, il y a un tournage burlesque, il y a un enlèvement, il y a tout en même temps, et c'est un film vraiment formidable.
On peut ajouter en sous-texte les plages de Noirmoutier, chères au cœur d'Agnès Varda. Jean-Marc ?
À propos, Jérôme, il y a quelque chose de très intéressant actuellement à Noirmoutier, au château de Noirmoutier. Il y a une exposition qui s'appelle L'île des cinéastes, dans laquelle on voit énormément d'éléments.
Agnès Varda,
César et Rosalie, qui sont de
sur la plage de Sautet.
Et donc, c'est au château, jusqu'à la fin de l'année, au château de Noirmoutier. Pour les touristes, je le recommande.
Mais même pour ceux qui y habitent. Bah, puisque tu as pris la parole.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve le film très, très beau aussi. Non, ce qu'il y a, c'est que le film rencontre une incompréhension des spectateurs totale. C'est très curieux,
là,
mais je crois...
Je te coupe, mais c'est comme pour Rodin, je reçois beaucoup, beaucoup de courriers depuis la sortie du film, très, très négatifs.
Oui, hein. Je crois qu'il y a une raison pour
pas
ça.
Du tout, hein.
Je crois qu'il y a une raison pour ça, et ma foi, c'est un problème général du cinéma. La raison, c'est qu'on n'arrive pas à entrer... Au cinéma, forcément, la caméra étant des yeux, on s'identifie au personnage principal d'une façon ou d'une autre. Et un homme qui hurle sa douleur de la perte de sa femme, c'est cohérent. Et quand cette femme revient, il hurle sa fureur de voir son retour. Et là, brusquement, en tant que spectateur... on a énormément de mal à suivre et on a tendance à se détacher du film. C'est un film que l'on continue à voir, mais que l'on ne vit plus.
Non, mais moi, je crois que c'est...
C'est un choix d'artiste.
Hein. Oui, Jean-Marc ?
Non, moi, je trouve le film vraiment génial. Je trouve ça magnifique de bout en bout. Alors, c'est un film vraiment... On a l'impression d'être face à un organisme vivant. C'est-à-dire que le film, il se transforme, il évolue, il vit sa vie devant vous. Tout à coup, il se met à se ramifier, à proliférer. Il prend des directions totalement imprévues. Et en termes d'invention de récit, aujourd'hui, on a parfois l'impression que c'est plutôt dans la série télé américaine qu'il y a vraiment une inventivité inouïe sur la manière dont on peut raconter une histoire. Mais c'est de manière qui est toujours un petit peu calibré et au forceps. Là, je trouve qu'il y a vraiment une façon de lancer des pistes totalement imprévues, d'inventer un mode de récit qui est inouï. Et moi, je trouve que c'est un film très très fort sur ce que c'est que l'empêchement, c'est-à-dire que c'est le sujet profond du film. Qu'est-ce qu'il faut tuer en soi de ces fantômes, de des images de pères symboliques, symbolisées ici par un cinéaste octogénaire dont on devine qu'il est calqué sur Claude Lanzmann. C'est quelqu'un qui, tout à coup, va réussir à trouver ce qui est bon pour lui, et qui va tuer tout ce qui l'empêche d'accéder à ça. Et le film, dans sa forme, qui elle-même sans arrêt empêchée, parce que ça prolifère tout le temps, montre ce que c'est... Il trouve une forme à cette idée de l'entrave, qui est aussi le sujet du film, et ça, je trouve ça très, très puissant.
Les fantômes d'Ismaël, c'est Arnaud Desplechin. On quitte Cannes, il n'y a pas de réaction pour des films sortis hors festival. On commence avec Marie-Francine, le cinquième film comme réalisatrice de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, bien sûr, Patrick Timsit, Philippe Lodenbach et Hélène Vincent, ces deux derniers jouant les parents. Et Valérie Lemercier, c'est Marie-Francine Doublet, une femme dont on peut dire qu'elle est cumularde, puisque dès la première scène, elle est quittée par son mari, Denis Podalydès, qui lui préfère une jeunesse, virée de son boulot, et obligée de retourner vivre dans le 16e bourgeois Icato, chez ses parents, qui tiennent une boutique de cigarettes électroniques, mais où elle fume de vraies clopes. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Miguel, le chef d'un resto portugais, qui est incarné par Patrick Timsit. 100% Cachemire était 100% raté, ça on peut le dire. Marie-Francine, qu'en pensez-vous, tiens, Alain ?
Ah, moi, j'en pense beaucoup de bien. Je l'ai trouvé adorable, ce film. Mais vraiment adorable.
Adorable.
Et je suis entièrement de ton avis sur le film précédent, 100%. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire, on dirait que cette femme intelligente a tiré les leçons de ce qui ne fonctionnait pas dans, et qu'elle a fait le contraire. C'est un film chaleureux dans lequel les acteurs sont absolument délicieux. Et je pense non seulement, enfin, il y a les parents qui sont Hélène Vincent, tu sais, et Podalides a un rôle absolument drôlatique. Et le mieux, c'est Tim Seat. Tim Seat est un homme qui possède une chaleur considérable. Moi, je ne l'ai jamais trouvé aussi bon depuis Marquise de Vera Belmont. Je crois qu'il a une chaleur considérable.
Pierre, pas vu ?
Pas vu.
Jean-Marc ?
Moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que c'est cette vision d'une France entre les mains des seniors et quelque chose de très drôle et assez juste sociologiquement sur cette génération qui sont donc les parents de Valérie Lemercier dans le film, qui, à plus de 70 ans, continuent à être les gens qui, grosso modo, dirigent la France et dont les enfants sont victimes d'une sorte d'adolescence prolongée et l'espèce de santé effrayante de ces parents qui continuent à jouir et qui n'ont jamais connu la crise. Je pense que c'est vraiment une vision assez forte et assez juste d'un défaut de transmission des initiatives et des pouvoirs dans la société française. Et je trouve que Valérie Lemercier chope quelque chose de très juste là-dessus. Après, moi j'aime beaucoup Valérie Lemercier. J'ai l'impression que dans ce film-là, qui effectivement est moins raté que le précédent, mais plutôt moins réussi, disons, que Palais Royal, la dépression dont elle parle pour son personnage atteint un petit peu le film et que le film est comme victime passivement d'une forme un peu dépressive qui fait que les tentatives de gag s'échouent un peu mollement dans les scènes et qu'il y a un défaut de timing qui fait que tout ça me paraît pas très enlevé et parfois un peu embarrassant.
Palais Royal,
parfois embarrassant bien,
Royal,
parfois
on riait, il y a des moments où on riait.
Oui, Palais Royal, c'est un film
là, je ne vois
drôle,
pas à quel moment, enfin, on peut sourire, il n'y a pas de moment où on rit.
Ah, mais si, je pense que la visée, c'est quand même que ce soit une comédie.
Je trouve quand même que de voir Hélène Vincent enfermée dans une machine à bronzer, c'est assez comique, c'est assez plaisant.
Ouais. Eric ?
Non, c'est une très très bonne comédie à la française, à condition de partir au bout de 10 minutes. Parce que dès qu'elle arrive chez ses parents...
Pour ne pas raconter la fin ?
Non, dès qu'elle arrive chez ses parents, je trouve qu'on est dans un autre film. Alors que quand elle se fait plaquer par Podalides, qu'elle perd son boulot, ça va vite, on dirait une comédie.
Hein.
Oui, mais 10 minutes. Et ensuite, on tombe dans le truc franchouillard, démodé, avec des bourgeois comme il n'en existe plus, qui parlent comme personne ne parle, qui considèrent leur fille de 50 ans comme si elle en avait 8. Mais ça marche pas du tout. Des bourgeois vont pas offrir à leur fille de 50 ans une boutique de cigarettes électroniques. C'est complètement absurde. Ça marche pas.
C'est
des trucs qui foutent tout en l'air. Et en plus, elle s'invente une jumelle. Ça nous manquait, là. Qui ne sert pratiquement à rien. Et tout est téléphoné, les dialogues sonnent faux.
Le problème, c'est la comédie qui ne fait pas vraiment rire, quoi.
Il y a un
vice de forme, quand même.
Et puis, avec un côté scatologique qui commence à devenir un petit peu inquiétant. Moi, j'aime bien le côté pipi-caca, mais là, c'est un peu laborieux. Hein. Le caca, faut que ça glisse.
Le pipi-caca laborieux, j'aime aussi bon
et puis,
que le pipi-caca.
Un côté paresseux qui nous impose des chansons qu'on chante intégralement, ça, c'est aussi une petite plaie. Mais allez voir les 10 minutes, c'est ce qui m'a fait le plus rire en France.
On peut pas dire
longtemps
aux gens, allez voir 10 minutes d'un film. Ils auront payé une place.
Ils seront contents, c'est 10% Cachemire.
Marie-Francine, Valérie Lemercier, personne pour la défendre ici, non ? Lou Andrea Salomé, un film de l'allemande de Cordula Kablitz-Post avec Katharina Lorenz dans le rôle-titre, qui commence invariablement par le cliché de presque tous les biopics, c'est-à-dire le flashback. On est dans l'Allemagne hitlérienne de 36, un jeune admirateur rend visite à une femme âgée et juive et il la pousse à écrire ses souvenirs, à raconter les hommes de sa vie et pas n'importe quels hommes puisque c'est quand même Nietzsche, c'est Rilke, c'est Freud et cette femme, vous l'avez compris, c'est la philosophe, psychanalyste, féministe, libertaire Lou Andrea Salomé. 1861, Alain 1937, dont Nietzsche disait « Elle est perspicace comme l'aigle et brave comme le lion » et dont l'histoire, il faut dire, est tout à fait exceptionnelle au point qu'elle finirait presque par l'emporter sur ce film, là on peut dire un peu besogneux. L'interprète Katharina Lorenz est bien très très musculeuse, mais pas sans charme, jusqu'au soir de sa vie où elle est remplacée par Nicole Esther. Le paradoxe que j'ai éprouvé en voyant ce film, c'est comment un personnage aussi anticonformiste qu'elle était en Lou Andrea Salomé peut être incarné dans un film, disons-le franchement, aussi conformiste.
Pierre.
Ben, c'est très mauvais, c'est la biographie. Alors, c'est l'anti-Rodin, c'est justement ce que tout le monde attend, c'est-à-dire flashback, et on se souvient du passé, et on se souvient de la rencontre avec Rick, et je me souviens d'eux, c'est épouvantable. Les deux actrices sont très bien, d'ailleurs, oui. la celle qui l'incarne jeune, et la vieille dame aussi, elle est très bien, très lumineuse.
C'est plus bref, ça.
Oui,
mais enfin, la jeune bon, est bien.
Très bien,
mais
on ne comprend pas la fascination qu'elle a pu exercer, on comprend pas la fascination qu'exercent les hommes qu'elle a aimé, puisqu'elle en a aimé un seulement, semble-t-il. Tout ça est d'un académisme total. Et moi, il y a une réplique qui me fait rire, c'est quand elle s'adresse à un moment donné à Nietzsche, et elle dit « Vos pensées tournent toujours au négatif ». Oui, c'est ce qu'on peut dire, en effet, à Nietzsche, que ses pensées tournent toujours au négatif. Mais c'est à l'image de ça.
Nietzsche qui a une belle moustache, d'ailleurs,
oui.
À l'identique. Et puis le Rilke, qui est évidemment, qui a un visage et des airs de poète.
Mais bon, c'est clichetonneux
voilà,
possible.
Voilà, tout est très attendu.
C'est possible, oui. Y compris la réplique que je viens de vous dire sur Nietzsche.
Jean-Marc.
Oui, c'est du Wikipédia filmé, et même pas tellement filmé d'ailleurs, vraiment plutôt illustré, oui. Avec des chromos. C'est suffocant d'ennui. La construction est absurde. Enfin, cette manière d'alterner le présent de sa vieillesse avec.
Mais ça, ce coup du rôle titre qui se souvient de sa vie,
c'est vraiment la forme la plus usée, la plus essorée qui soit. Vraiment, il n'y a pas une once de cinéma dans ce film.
Alain?
Oui, non, c'est possible, le film est compassé et tout, mais c'est quand même une vie absolument extraordinaire. Et il y a une séquence délirante.
Laquelle?
Pas la façon dont elle est filmée, enfin, quand même, on voit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on voit Lou Andreas Salomé confesser au sens religieux, confesser Nietzsche dans le confessionnal de l'église de Saint-Pierre de Rome. Et ça, je n'ai jamais imaginé pouvoir le voir, même dans mes rêves les plus freudiens. C'est quand même fascinant, ça.
Mais tu en reviens à ce qu'on disait au début, c'est l'histoire, là, c'est la vraie Salomé.
Oui,
c'est
mais enfin, ça vaut le coup de voir. Moi, je ne regrette pas mes 10 balles. Mais
je ne regrette pas mes 10 balles, enfin...
Mais pour parler en philosophe.
Oui, mais enfin, le cinéma, c'est du cinéma, quand même. Il faut porter un jugement sur la... Lou Andreas Salomé de Cordula Kablitz-Post. Pas de réaction, j'imagine, sur ce film. Et l'autre biopic, pas plus léger, avec lequel on va finir la soirée, c'est Churchill, du Britannique Jonathan Teplitsky, avec Brian Cox, qui est assez bluffant dans le mimétisme. Mais bon, c'est tellement attendu maintenant dans les biopics, et qui a donc le rôle du premier ministre anglais, et Miranda Richardson dans celui de Mrs. Churchill. Le film s'intéresse surtout aux deux jours de juin 44 qui ont précédé le débarquement de Normandie, quand Churchill, qui craint la boucherie, s'oppose au plan soutenu par Eisenhower de débarquer à Omaha Beach. Sur ce coup-là, il n'était pas vraiment, vraiment visionnaire, Churchill, mais enfin, en tout cas, il était, disons, très humain. Alors, ceux qui aiment les discours de Churchill, ces fameux coups de gueule, son fameux V de la victoire, en auront pour leur argent. C'est relativement court pour un biopic historique, c'est 1h30 et des poussières.
Mais c'est un film totalement débile. C'est un film totalement débile parce que ça s'attache, ça s'attache à créer un suspense sur Churchill.
Là, tu peux raconter la fin, effectivement.
Voilà. Churchill aura-t-il de l'influence pour empêcher le débarquement? Comme il a eu lieu, il y a quand même pas grand-chose à sauver. Donc pendant 99 minutes, on voit un type qui arrive en disant non, mais ça va être un massacre. Ça va être raté, il va y avoir des morts, c'est pas bien.
Sauf qu'on peut avoir oublié l'opposition qu'il y avait entre Churchill et
Eisenhower. Oui, mais enfin, ça devrait durer 3 minutes. Or là, le film repose sur ça, sur est-ce qu'il va arriver à changer le cours de l'histoire? Ben non, il change pas le cours de l'histoire, forcément. Et donc, ça devient... Alors, à part ça, il y a de la fumée des cigares, il y a beaucoup de scotch, il ne dit pas « no sport », qui est une de mes répliques favorites de Churchill, mais il pourrait le dire, très bien. Non, mais c'est...
Et il y a une formule qui ne dit pas non plus, que j'adore, c'est à propos du cheval, il est dangereux à ses extrémités et inconfortable en son milieu.
Mais voilà, rien que ça, déjà, le film serait meilleur.
Tu as vu comment il regarde la mer avec beaucoup de. Avec une pause comme
ça. Une profondeur. Les plans sont larges, beaux. C'est épouvantable.
Eric.
Ah bah, si on ne sait pas que Churchill est un type qui avait un chapeau melon, qui fumait le cigare et qui faisait lever de la victoire, on peut apprendre. apprendre des choses là-dedans. Mais sinon, il n'y a rien. Dès la première séquence, qui est épouvantable, on voit Churchill vieillissant là, au bord de la mer. Voilà. Et il fait tomber son chapeau et la mer l'emporte. Il essaye d'aller le chercher. Et soudain, la mer se couvre de sang et il voit, il imagine les cadavres des soldats morts au débarquement des Dardanelles pendant la guerre précédente. Et tout est comme ça. Tout est très lourd, appuyé, avec des ralentis à n'en plus finir, des espèces d'images métalliques. Et le seul truc assez rigolo, c'est que on voit que sa femme,
oui,
dont j'ai oublié le prénom, un prénom rigolo d'ailleurs, le traitait un peu comme Brigitte Macron parle à son mari, alors, en lui disant « mange pas de chocolat, c'est tout ». Alors il promettait aux Anglais du sang, de la sueur et des larmes. En tout cas, la chose pour laquelle il n'a pas menti, c'est qu'avec ce film, on se fait sacrément suer.
Avec, il faut dire, un Brian Cox, oui, qui est vraiment dans le mimétisme caricatural. On est parfois, j'ai le sentiment d'être...
John Lithgow est aussi bon
Grévin,
dans The Crown.
Enfin, le mimétisme, à condition d'avoir vécu avec Churchill, parce que quand même on le connaît pas intimement, Churchill. Moi j'ai trouvé le film horriblement théâtral, mais j'ai pas du tout eu l'impression que Brian Cox imitait Churchill. J'ai eu l'impression qu'il imitait tout le temps Charlton. C'est exactement, on dirait qu'il a copié son numéro dans Le témoin à charge de Billy Wilder. C'est exactement le personnage.
En tout cas voilà, c'était Churchill de Jonathan Teplitsky, et on termine avec les conseils de fin d'émission. On va commencer avec Jean-Marc.
Une rétrospective en cours qui se prolonge jusqu'à fin juin, c'est au Centre Pompidou, l'intégrale de Barbet Schroeder, tandis que va sortir la semaine prochaine son nouveau documentaire, Le Vénérable W. C'est l'œuvre la plus peut-être polymorphe du cinéma contemporain, qui comprend à la fois des documentaires, des films hollywoodiens, du cinéma d'auteur français. C'est une œuvre passionnante parce que il a vraiment habité des régions de cinéma extrêmement dissemblables. Donc voilà, il faut se plonger dans l'œuvre de Barbet Schroeder.
Et avec grâce à cette exposition, un court-métrage où il en est et qui explique totalement le prochain film, c'est-à-dire le Vénérable W. Le conseil d'Alain.
C'est un tout petit film absolument minuscule et très très réussi, très joli, qui s'appelle Drôle d'oiseau. C'est Élise Girard. Et c'est un film original qui raconte un amour qui n'a même pas eu lieu, qui ne demande qu'à avoir lieu et qui n'explose pas. Et c'est joué par Lolita Chama et Jean Sorel, qui jouait en particulier dans Buñuel. Et c'est un film que je recommande vraiment, qui est étonnant de charme.
Mon conseil, c'est une bio d'une femme que j'adore, qui est Danielle Darieux, signée Clara Laurent chez Hors Collection. Darieux qui vient tout juste de fêter ses 100 ans et qui a tourné dès ses 14 ans, qui a joué pour les plus grands cinéastes, de Max Ophuls à Téchiné, de Mankiewicz à Claude Chabrol et à Ozon, dans 8 femmes, où elle était d'ailleurs d'une enviable jeunesse. Danielle Darieux, femme moderne. Clara Laurent, et c'est chez Hors Collection. Le conseil d'Éric.
C'est un livre de Michel Halberstadt, Brève rencontre. Halberstadt est aujourd'hui productrice. Elle a été animatrice de radio à Radio 7, où elle était surnommée la Castafiore. Nonc lui avait trouvé Sagan, ce qui n'est pas mal. Et elle avait dirigé Première, ce qui lui avait permis de rencontrer un tas de gens de cinéma. Elle raconte ses souvenirs, ses rencontres. Elle le fait avec une espèce de modestie et une capacité d'admiration qui sont assez rares. Elle se met pas du tout en valeur. Elle raconte qu'elle avait commis la bourde à la fin d'une interview avec Dennis Hopper, de lui dire « Thank for coming », ce qui ne veut pas dire du tout en anglais « Merci d'être venu », et il lui fait remarquer, elle apprend ça. À la fin de l'interview de Paul Newman, il lui avoue qu'il est daltonien. Il y a plein de petites choses comme ça. Elle se moque d'elle, elle raconte une conférence de presse d'Orson Welles à la Cinémathèque en 82, où elle lui pose des questions, et le lendemain, dans Libération, il y avait une phrase qui résumait l'événement comme ça. Une conférence de presse insipide, perturbée par une dame assise par terre en tailleur, qui a monopolisé, par une conne, pardon, assise en tailleur, qui a monopolisé la conversation.
C'est chez
Albin Michel.
Le conseil pour finir de Pierre.
Alors, il est sorti en même temps que les grandes sorties dont on a parlé tout à l'heure, donc il a été un peu écrasé. C'est un film portugais qui s'appelle Saint-Georges, de Marco Martins, qui est un film bouleversant. Ça se passe au Portugal en 2011, au moment où il y a la crise, et où les sociétés de recouvrement achètent les dettes, comme ça. Et donc, il y a un type qui est à la rue, il est boxeur, et il est obligé, pour nourrir son fils, de se faire engager comme homme de main pour exiger des pauvres qu'ils remboursent leurs dettes. Ça rappelle un peu le néo-réalisme italien.
Parce que l'émission se termine.
Voilà, ça s'appelle Saint-Georges, c'est formidable, et c'est un film de Marco Martins.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, France Inter.
www.radioscoop.fr. Merci Alain Rioux, Jean-Marc Lalanne, Éric Nehoff et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Sacha Guitry, à la technique, Pascal Bénard, Fabien Capel et Dimitris Capolan. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 15 juin à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une consacrée au film, l'autre au livre. La semaine prochaine, on parle théâtre. Je vous dis donc à dimanche prochain, mais attention, uniquement ce soir-là sur franceinter.fr. Bonne semaine à tous.